Je voudrais reprendre, redire toutes les précautions et reprendre toutes les, comment dirais-je, oui, les circonvolutions qu'on avait prises au début de ces études, parce que là, évidemment, on s'avance sur un terrain miné. Tout ce qui touche à Israël est un petit peu, comme disent les Anglais, une patate chaude. Chaque fois qu'on y touche, on s'y brûle. Et par conséquent, donc ici, on est amené tout de même à poser un certain nombre de questions. Et c'est sous cette forme-là, bien sûr, qu'on envisage cette étude, plus que comme des affirmations, des questions. Et ces questions sont celles-ci, finalement. Est-ce que la tradition chrétienne, qui remonte au IIe siècle après Jésus-Christ, a envisagé d'une manière exacte la question d'Israël, ou bien au contraire, l'a-t-elle fait avec des a priori, avec des préjugés, avec des stéréotypes qui lui sont venus de diverses sources, et notamment du fait qu'elle s'était coupée de ses racines juives, c'était donc l'église pagano-chrétienne. Et s'il en est ainsi, est-ce qu'effectivement il ne faut pas revoir un certain nombre de points de la théologie traditionnelle? Nous allons envisager maintenant, après avoir pris ces précautions-là, bien entendu, en disant que c'est une recherche et non pas du tout des affirmations dogmatiques, mais en même temps, ce qui est heureux évidemment pour nous, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette problématique, ni dans ces voies. Ce serait dangereux si nous étions les seuls, mais se trouve être heureusement que ça n'est pas le cas. Et nous avons vu aussi au début de ces études que, y compris dans certains milieux catholiques, universitaires notamment, on se pose ce même type de questions. On se les pose bien sûr aussi dans le milieu juif messianique, notamment américain, et puis aussi dans les cercles, disons, de gens qui sont proches d'Israël. Et nous allons voir ce soir donc un nouveau chapitre, en quelque sorte, de cette réflexion. L'Église en tant que Verus Israël. Verus Israël, c'est un mot latin qui signifie le véritable Israël. À partir du IIe siècle, en effet, l'Église chrétienne, pagano-chrétienne, pourrions-nous dire plus exactement, a été amenée à se considérer comme le Verus Israël, c'est-à-dire comme le véritable Israël. Et c'est la base de ce qu'il convient d'appeler la théologie de la substitution, qui est quasi générale dans le monde chrétien jusqu'au philosémitisme du XVIIe siècle, où ce dogme, pourrait-on dire, commence à être remis en question. Il le sera plus ou moins dans les milieux évangéliques jusqu'au, disons, dans les années 70-80, où il y aura un reflux, n'est-ce pas, et il y aura dans beaucoup d'églises, y compris évangéliques, un retour à la théologie de la substitution, la théologie de l'Église Verus Israël. La première remarque que nous pouvons faire quand nous parlons de ce sujet, c'est de constater que dans l'Église ancienne, c'est-à-dire l'Église du 1er siècle, du début du 2e siècle, disons, on attendait des païens qu'ils s'adaptent à Israël et non pas l'inverse. Tandis que maintenant, on s'attend des juifs qui croient en Jésus, n'est-ce pas, qu'ils s'adaptent à l'Église pagano-chrétienne. Bon, là aussi, il y a une question qui peut se poser à partir de cette constatation. Est-ce que Jésus a voulu fonder une nouvelle religion différente du judaïsme? Finalement, quand on examine sans a priori les textes, on a tendance à dire non, n'est-ce pas ? Et à considérer que ce que cherchait Jésus, c'était à renouveler le judaïsme ancien et de lui donner une nouvelle dimension, une dimension universelle, comme on le voit dans la Grande Commission, aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, en leur enseignant ma Torah, en leur enseignant à garder ce que je vous ai enseigné. C'est donc au IIe siècle que la rupture s'opère. Et la rupture s'opère d'une manière tout à fait intéressante et en même temps très discutable. Par exemple, c'est ce que note un juif comme Shalom Ben Chorin dans son livre « Paul, un regard juif sur l'apôtre des nations ». Et Shalom Ben Chorin reprend ce qui a été justement le point de départ de la rupture du IIe siècle, où l'on a, alors que dans l'Église du Ier siècle, on considérait comme normal, naturel, que les juifs chrétiens continuent à respecter les prescriptions rituelles de leur peuple. Irénée de Lyon, donc, justement, à la fin du IIe siècle, nous le rappelle, dit que tous les apôtres étaient des juifs qui gardaient la Torah. Et il s'en prend justement à ceux qui cherchent à condamner les apôtres pour justement avoir gardé la Torah. Donc on considérait jusqu'au milieu du IIe siècle que c'était une chose normale et naturelle pour les juifs chrétiens, n'est-ce pas, de garder un certain nombre de prescriptions rituelles, sinon toutes, mais que ce n'était pas nécessaire pour les juifs, pour les paganos chrétiens, et même que c'était une chose qui n'était pas recommandable et voire même négative. Et à partir du IIe siècle, on a considéré que même les juifs chrétiens, c'était une chose négative, mauvaise, voire même un péché, que de garder les prescriptions de la Torah. Et si Paul reproche à Pierre, dans l'Épître aux Galates, d'avoir essayé d'amener les non-juifs à vivre à la manière juive, au IIe siècle, on a amené les juifs à vivre comme les païens. Voilà. Une des premières ruptures qui s'est opérée à cette période-là, c'était le rejet du Shabbat. Bon, il n'y a strictement aucun texte sérieux dans le Nouveau Testament qui nous permette de penser un seul instant que l'Église ancienne a abandonné le Shabbat pour le dimanche. Les deux textes qu'on invoque en faveur de cette tradition ne tiennent pas. Le premier, c'est... il y a trois textes, en fin de compte. Le premier, c'est qu'il nous est dit, dans la deuxième aux Corinthiens, de mettre que le premier jour de la semaine, dit Paul, que chacun mette de côté ce qu'il a pensé consacré au Seigneur. Bon, c'est un argument... on dit le premier jour de la semaine, c'était le dimanche, donc c'était le dimanche que les chrétiens mettaient à part leur offrande pour l'œuvre de Dieu, ce qui est un fait. Ça ne signifie en rien que les chrétiens célébraient leur culte le dimanche plutôt que le samedi, parce que justement, une des halakhot, une des lois du judaïsme, c'est qu'il est interdit d'avoir des affaires d'argent le Shabbat. Par conséquent, il est tout à fait normal de considérer que même ce qui concernait l'argent du Seigneur, c'était quelque chose qui se traitait le lendemain du Shabbat. Donc c'est un argument, au contraire, qui se retourne contre l'idée que le Shabbat a été supplanté par le dimanche. Deuxième texte. Celui où Paul, donc, le premier jour de la semaine, était assemblé le soir pour faire ses adieux à l'église de Milet. Et puis, vous savez, c'est l'épisode malheureux de Titus qui tombe du troisième étage, qui se tue, etc. Bon. Or, là aussi, c'est un argument qui se retourne à fond contre leur tenant, parce qu'on sait qu'il y avait, n'est-ce pas, dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans le judaïsme en tout cas orthodoxe, un repas qu'on appelait le repas d'amour, n'est-ce pas, à la sortie du Shabbat, Motsé Shabbat, on appelle aussi Avdala, c'est-à-dire la différenciation, quand on fait la différence entre le sacré et le profane, qu'on entre dans le profane. Et il y avait un repas spécial, qu'on appelait d'ailleurs, et qu'on appelle toujours le repas du Messie, parce qu'on célèbre justement aussi la venue du Messie dans ce moment-là. Et on voit bien justement que le premier jour de la semaine, le soir du premier jour de la semaine, selon le compute traditionnel juif, c'est le dimanche soir, et non pas le samedi soir, et non pas le dimanche soir. Donc ça renforce cette idée que les premiers chrétiens, en tout cas, célébraient le samedi soir, au mieux. Bon. Troisième point, alors là, qui lui est complètement hors de saison, je ne sais pas si on vous a expliqué ça à Patmos, l'idée que Jean a été enlevé au ciel, a eu sa vision de l'Apocalypse au jour du Seigneur, donc « Die Domini » en latin, ce qui là aussi est une absurdité totale, parce que le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel, ça veut dire la venue du Seigneur. Il a vu le jour la venue du Seigneur, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment ils interprétaient ça, ils n'en ont pas parlé. Or, justement, le premier jour de la semaine, le dimanche, était considéré dans le monde gréco-romain comme le jour, au contraire, du soleil. C'était le jour qui était consacré au soleil. On a donc adopté le jour du soleil pour en faire le jour du Seigneur. Et au mieux, n'est-ce pas, ce que l'on peut dire de ce que nous dit le Nouveau Testament, Paul nous dit que tel fait une différence entre les jours, tel les considère tous égaux. Bon. Et au mieux, n'est-ce pas, on peut penser qu'il y avait chez certains chrétiens une indifférence à l'égard du Shabbat. Encore qu'on se rend très vite compte que considérer tous les jours comme tous égaux, c'est pratiquement une position qui est intenable sur le plan liturgique, parce que, justement, eh bien, il faut bien des points de repère, il faut bien des moments où l'on se rassemble. Alors on dira au début, on se rassemblait tous les jours dans les maisons, c'est ce qui se passe par exemple au moment des réveils, et encore en ce moment, nos frères gitans d'Espagne se rassemblent tous les jours. Bon, soit, est-ce qu'on peut toujours vivre de cette manière-là? Bon, il faut très vite des points de repère, et par conséquent, donc, l'Église ancienne a été amenée, l'Église du IIe siècle a été amenée aussi à prendre de nouveaux points de repère. Ces nouveaux points de repère, est-ce que finalement, c'était une sanctification de la vieille coutume païenne de célébrer le culte du soleil le premier jour de la semaine, le dimanche? Bon. Est-ce que Paul aurait été d'accord avec ça? Je suis loin d'en être sûr, personnellement. Si tant est que le respect, justement, des institutions juives était une chose mauvaise, on est obligé de constater que dans l'Église traditionnelle, l'Église de nos jours, on a réintroduit le calendrier liturgique que l'on condamne, au nom de l'enseignement de Paul. Non seulement on a réintroduit un autre Shabbat, qui est le dimanche, mais on a introduit des fêtes comme Noël, Pâques, que l'on a placées à une date où ils ne coïncident en rien avec la Pâque juive, justement pour qu'on différencie les deux choses, la Toussaint, l'Assomption, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, j'en passe et des meilleurs, sans parler des jours pour les saints, et le calendrier liturgique chrétien, entre guillemets, est infiniment plus complexe que ne l'est le calendrier liturgique juif. Alors admettons un seul instant que Paul était en désaccord avec l'idée de respecter les fêtes d'Israël. Je suis loin d'être sûr qu'il était d'accord avec ça, qu'il aurait affirmé ça. Mais supposons-le un seul instant. Supposons, avec justement l'Église, j'allais dire, de tous les dieux et de tous les temps, que Paul n'était pas d'accord avec le calendrier liturgique juif. Admettons-le. Croyez-vous qu'il aurait été d'accord avec le calendrier liturgique chrétien actuel? Je pose la question. Il n'est pas là pour le dire. On est quand même en droit d'en douter. Tant qu'à respecter un calendrier liturgique, finalement, bon, alors, d'aucuns nous diront, alors il faut plus respecter Noël, alors il faut plus respecter Pâques, il faut plus fêter Pâques. Alors là, je reviendrai justement à ce que disait Paul, c'est indifférent. C'est finalement indifférent. Et pour ne pas nous couper justement de l'Église universelle, je disais ça à nos frères d'Espagne qui sont un peu tentés par un retour justement au calendrier liturgique juif, je dis c'est pas indispensable, et qui plus est, ce ne serait pas un péché, bien entendu, je ne pense pas à un seul instant, mais ce serait justement, peut-être justement, se couper de l'Église de tous les temps et de tous les lieux qui a adopté cet autre calendrier, et comme le disait M. Kaufmann, en son temps, bien, le temps des réformes est passé. Je ne crois pas qu'on puisse réformer les choses sur ce plan-là. Alors, ma foi, bon, ben, soumettons-nous à une tradition, mais en reconnaissant que cette tradition n'est pas biblique. Voilà ce que serait ma position. Soumettons-nous à cette tradition parce que finalement, elle est indifférente, elle est neutre. Mais en rejetant le calendrier liturgique juif, l'Église du IIe siècle a montré une chose, c'est qu'elle rejetait Israël. Et c'était le but. Et ça, il faut le savoir. Et c'est alors que l'Église du IIe siècle a commencé à se considérer comme le nouvel Israël. Nous avons, au milieu du IIe siècle, un des principaux pères de l'Église, qu'on appelle Justin Martyr. Justin Martyr était un grec qui était né à Naplouse, Sichem, Néapolis, et qui était un philosophe. Un philosophe qui a rencontré l'Évangile, qui s'est tourné vers Jésus-Christ et qui est mort en martyr à Rome, où il avait essayé d'ouvrir une école de philosophie dans laquelle il prêchait l'Évangile. Bon, c'était un homme de Dieu, ce n'est pas le problème. Et Justin Martyr nous a laissé un ouvrage qui est le premier exemple d'une disputation qui fera fortune au Moyen-Âge entre un certain juif Tryphon, qui est vraisemblablement, selon le professeur Safraï, Rabbi Tarfon, et lui-même. Et là, il discute de la messianité de Jésus, de la Torah, enfin, de toutes les questions en suspens, celles que, justement que nous étudions là. Et Justin Martyr, dans ce dialogue avec Tryphon, est le premier à émettre l'idée que l'Église a remplacé Israël et que l'Église est le véritable Israël. Et c'est ainsi qu'on trouve cette idée saugrenue chez Justin, qu'au moment de la venue de Jésus, le règne millénaire de Jésus auquel il croit encore, les chrétiens, qui sont le véritable Israël, seront rassemblés dans la Jérusalem qui sera le trône de Jésus, avec Abraham, les patriarches et les juifs qui sont nés, enfin qui ont été fidèles avant la venue de Jésus, et que les autres juifs, le peuple d'Israël incrédule, sera jeté dehors et n'aura pas de part dans cette Jérusalem-là. On ne peut pas mieux dire, n'est-ce pas, que l'Église a véritablement supplanté Israël et est donc le virus Israël, le véritable Israël. Plus tard, vous le savez, on va spiritualiser la notion de millénium. Nous en avons abondamment parlé, je n'y reviendrai pas. Et à partir de ce moment-là, l'antisémitisme de l'Église augmente. À partir donc de Justin, on commence à voir l'Église à part du judaïsme. Et finalement, Justin, qui était platonicien, qui avait été platonicien avant sa conversion, introduit dans le christianisme des idées platonicienne, des idées qui sont celles des philosophes grecs. Au IIe siècle, toujours, vous le savez, on a vu ça en histoire de l'Église, nous avons un certain Marcion, c'est l'époque de ce qu'on appelle la gnose, qui est absolument néoplatonicienne, qui rejette totalement le peuple d'Israël. Et Marcion, qui était aussi d'ailleurs un palestinien, comme on dirait aujourd'hui, non juif bien sûr, mais un grec qui habitait ce qu'on commençait à appeler la Palestine à cette époque-là, puisqu'on était après la grande révolte de Bar Corba. Et donc, ce Marcion considérait que l'Ancien Testament était l'émanation d'un dieu mauvais, le dieu jaloux, le dieu qui juge, le dieu qui est absolument dépourvu de tout amour, et qui avait donc élu le peuple d'Israël, mais qu'avec la venue de Jésus, le Dieu bon, le Dieu d'amour, seul restait, même pas le Nouveau Testament, certains livres seulement du Nouveau Testament, les livres les plus juifs du Nouveau Testament, il les avait expurgés, n'est-ce pas ? Et que c'était le seul Dieu bon auquel on devait adresser des prières, et qu'on devait purger la foi chrétienne de tout ce qui était juif, tout ce qui était la foi d'Israël, toute relation à Israël était mauvaise, était l'émanation du Dieu mauvais, du Dieu de l'Ancien Testament. Bon. L'hérésie marcioniste ne pouvait pas être suivie par la Grande Église, c'est une évidence, car alors elle se serait coupée de ses racines, et malgré son anti-judaïsme, l'Église pagano-chrétienne du IIe siècle a senti que là, Marcion était allé trop loin. On a condamné Marcion, on a condamné l'hérésie marcioniste, et finalement, on a remplacé. Marcion a laissé des traces quand même, dans ce sens que on s'est dit, on ne peut pas évidemment faire l'économie d'Israël, ce sont nos racines, finalement. C'est ce que l'Église du IIe siècle s'est dit. Mais le véritable Israël, c'est nous. Donc, l'ancien Israël, l'Israël selon la chair, est déchu. Son élection cesse avec la venue de Jésus. Et voilà, le peuple juif, en tant que tel, n'a plus d'avenir. Quelques juifs individuellement peuvent se joindre à l'Église, véritable Israël, à condition de renoncer à tout ce qui est leur judaïsme. Et voyez-vous, Marcion nous a joué un très, très, très mauvais tour. Car Marcion a entraîné, malgré tout, dans l'Église chrétienne, même s'il a été condamné, une suspicion pour tout ce qui est juif, pour tout ce qui vient justement de la foi d'Israël, et en même temps une dévalorisation de l'Ancien Testament, dont nous ne sommes pas encore guéris. Nous ne sommes pas encore sortis. D'ailleurs, l'expression « Ancien Testament » commence à être employée à cette période-là. C'est une expression qui, bien entendu, est péjorative. « Ancien », ça signifie « dépassé hein ». Et c'est pourquoi, personnellement, je préfère employer l'expression de « Premier Testament », »,« Première Alliance », n'est-ce pas, et « Deuxième Alliance », »,« Nouvelle Alliance », ça, on peut l'employer. Parce que le mot est biblique. Maintenant, on a vu aussi la gravité de ce qu'avait été pour l'Église ancienne la destruction du Temple et la destruction de Jérusalem. Selon l'empereur romain Septime Sévère, qui vivait donc au IIe siècle, le Titus, quand il a détruit le Temple, voulait non seulement détruire le judaïsme, mais il voulait aussi détruire le christianisme. Bon, on peut douter, évidemment, que telle était l'intention de Titus. Mais enfin, c'est intéressant de noter qu'un empereur romain ennemi du christianisme ait fait cette analyse, parce qu'il s'était bien rendu compte que la destruction du Temple avait été une catastrophe, bien sûr, pour le judaïsme, mais avait été aussi une catastrophe pour le christianisme. Et alors, justement, au IIe siècle, vous savez, c'est l'époque aussi de la révolte de Bar Corba, où l'on essaye de détruire Jérusalem, on l'appelle Aelia Capitolina, ce que tentent de faire encore d'ailleurs les Arabes aujourd'hui, qui l'appellent El Quds, et qui voudraient que le nom de Jérusalem soit remplacé par El Quds, parce que l'existence de Jérusalem symbolisait et symbolise la volonté du peuple d'Israël de survivre. En fait, pour les judéo-chrétiens, la ruine de Jérusalem était une de ces catastrophes dont on espérait que sortirait un bien, que de là naîtrait le royaume. C'est ce qu'on lit, par exemple, dans les discours apocalyptiques de Jésus, dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, où il est question, n'est-ce pas, qu'aussitôt après ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus son éclat, on verra le signe du Fils de l'homme paraître dans le ciel. Et par conséquent, les judéo-chrétiens voyant la ruine de Jérusalem, un signe avant-coureur de la venue du royaume. Bon, on sait, hélas, que cela ne fut pas. Et les pagano-chrétiens donc ont conclu que en fait c'était un jugement contre le peuple d'Israël dans son ensemble, et le courant anti-légaliste et anti-judaïsant en quelque sorte, et s'est trouvé renforcé justement du fait de la destruction de Jérusalem. C'est après 135 toutefois que qu'on trouve expressément mentionné dans les écrits chrétiens, d'abord chez Hégésippe, un père de l'Église qui vivait à cette période-là, que la ruine de Jérusalem a été une catastrophe punitive pour Israël. Bon, on retrouve cette idée chez Tertullien, chez Origène, chez Eusèbe, et qui ajoute encore une fois une autre idée, que les Juifs ne se relèveront jamais de cette catastrophe. Hein, ça, c'est, vous voyez, chaque génération ajoute à cet anti-judaïsme qui naît à cette période-là. Et ces trois pères de l'Église, donc Tertullien, Origène et Eusèbe, émettent l'idée que les Juifs ont été dépositaires provisoirement de la révélation dont l'Église, aujourd'hui, est l'héritière. Par conséquent, là naît une idée très importante, si vous voulez, c'est finalement de l'anti-judaïsme que naît le catholicisme. Alors, l'anti-judaïsme, parce que justement, l'Église catholique doit être un royaume terrestre, comme le judaïsme était un royaume terrestre. L'idée que Dieu a transféré le siège de son royaume, de Jérusalem à Rome. Ça, c'est très important. Rome est la nouvelle Jérusalem. Rome succède à Jérusalem. Jusqu'à la ruine de Jérusalem, il est évident que Jérusalem était l'église mère. Paul y monte, enfin on voit ça dans le Nouveau Testament, c'est une évidence. À partir de la ruine de Jérusalem, le siège, en quelque sorte, apostolique se transforme à Rome, se transporte à Rome. Et c'est Rome qui est la capitale, le centre de la chrétienté. Maintenant, autre point extrêmement important, qui est aussi un des points de discorde encore aujourd'hui avec l'Église catholique pour ce qui nous concerne, la Bible est donc, et ça c'est très important, la propriété intégrale et exclusive de l'Église, c'est-à-dire de la hiérarchie, qui seule est habilitée à l'interpréter. Voilà. Ça, vous trouvez ça justement chez les pères de l'Église de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle. Et ça, c'est aujourd'hui encore le dogme de l'Église catholique romaine. Dogme avec lequel les réformateurs ont rompu. Et alors, on va encore plus loin. Depuis la venue de Jésus, les Juifs ont perdu même le droit de posséder la Bible. La Bible n'est plus leur Bible. Justin dit ça, par exemple, à Tryphon. Il dit, vos écritures, ou plutôt nos écritures. Voilà. Tout ça chez Justin, déjà. Bon, les deux générations qui suivent Justin vont encore beaucoup plus loin dans cette piste qu'il ouvre, n'est-ce pas ? Par exemple, on trouve aussi une affirmation du même type chez Augustin, qui nous dit ceci. Les Juifs n'ont reçu les Écritures que pour les transmettre aux chrétiens. Voyez-vous ? Les Juifs sont dépossédés de tout leur héritage, y compris de leurs propres écritures. Et bien entendu, l'appropriation par le virus Israël, le nouvel Israël, des écritures juives, implique obligatoirement et nécessairement leur réinterprétation. Par conséquent, l'interprétation du texte par l'Église devient première sur le texte lui-même. Sinon, bien entendu, les Juifs n'en seraient pas dépossédés. Mais voilà. Pour l'Église des 2e et 3e siècles, un problème se pose. Les Écritures juives, que l'on commence à, alors, comme nous l'avons dit, à appeler l'Ancien Testament, affirment d'une manière absolument sans ambiguïté la vocation éternelle du peuple d'Israël. Bon. C'est pas seulement d'ailleurs les Écritures juives qui l'affirment, mais c'est également Paul dans l'Épître aux Romains. Ça, on l'ignore. Même Karl Barth, au siècle dernier, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, interprète les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains comme se référant à l'Église. On voit justement combien justement cet enseignement du virus Israël a empoisonné l'Église pendant les siècles. Alors, quid ? L'Écriture affirme la vocation éternelle d'Israël. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Comment dès lors la Bible peut-elle être la Bible des chrétiens ? Eh bien, il faut la vider de son contenu, c'est tout simple. Et donc, c'est ce travail de réinterprétation qui est effectué par l'allégorie. Et là, les pères du IIIe siècle sont des maîtres de l'allégorie, Origène, par exemple, mais Eusèbe aussi, et puis même jusqu'à Augustin, ça va. On manie l'allégorie avec une dextérité rare, ça va. Alors, on peut poser la question aussi, comment la Bible peut-elle être le livre des chrétiens ? Au moment même où ces derniers la vident de son contenu. Et c'est pourquoi, malgré la condamnation de Marcion, l'Église chrétienne, et notamment l'Église catholique, est toujours mal à l'aise en face de l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Église catholique lit peu l'Ancien Testament, et on pourrait dire que les églises protestantes suivent exactement le même chemin. Pour l'Église ancienne, cette question, à la limite, ne se pose pas. Parce que Israël n'a reçu de vocation de Dieu que de manière provisoire. Sa vocation n'étant que provisoire, on ajoute en quelque sorte cette idée, il y a une vocation d'Israël dont l'Écriture rend témoignage, c'est indiscutable, mais cette vocation, elle prend fin avec la venue de Jésus, point. Donc, à la limite, c'est aussi une autre manière élégante de se défaire du problème. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'on est obligé de considérer que dans l'Ancien Testament, entre guillemets Ancien Testament, il y a quand même des prescriptions qu'on est obligé de garder, ne serait-ce que les 10 commandements. Alors, comment s'y retrouver entre ce qui est dépassé et ce qui reste malgré tout actuel? Alors, l'idée est celle-ci. C'est que la substitution de l'Église à Israël a été dans le plan de Dieu de toute éternité. Et ça, vous trouvez ça chez Calvin, l'idée que l'Église, finalement, a toujours existé, qu'on la trouve déjà à la limite dans le jardin d'Éden. Les disciples de Calvin, sinon Calvin lui-même, qui vont jusque-là. Maintenant, évidemment, dès qu'Israël cesse d'être le peuple élu, c'est-à-dire à la venue de Jésus, la Torah perd toute valeur. Donc l'Ancien Testament perd toute valeur. Et c'est justement là aussi que nous trouvons un autre problème, auquel justement les pères de l'Église n'avaient pas pensé, c'est que là, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Le judaïsme, dans le monde gréco-romain, était considéré comme religio liquita parce qu'elle était une religion ancienne. Les Romains étaient des gens qui avaient un grand respect pour ce qui était ancien. Et si une religion pouvait faire la preuve de son ancienneté, alors elle était respectée et déclarée religion licite. Mais ce que les Romains combattaient, c'était les religions nouvelles. Ils n'en voulaient pas. Et par exemple, quand Paul arrive à Philippe, vous avez vu ça quand vous étiez sur place, Paul est traîné devant les autorités romaines par les maîtres de l'esclave qui avait l'esprit de divination, là, et qui a été guéri, sous prétexte qu'ils enseignent une religion nouvelle qu'il n'est pas permis aux citoyens romains d'accepter. Et par exemple, j'ai écrit ça dans le dernier Keren, si vous l'avez lu, n'est-ce pas ? Un des grands soucis de Luc, quand il écrit son évangile et les actes, c'est de montrer à ses lecteurs romains que le christianisme n'est pas une religion nouvelle, mais c'est une religion qui est enracinée dans la foi et dans la tradition d'Israël, et que par conséquent, c'est une religion respectable. Luc est profondément persuadé de la réalité, justement, que la foi d'Israël est la base du christianisme. Mais il met ça en exergue pour ses lecteurs romains, parce que, la manière dont le christianisme va être reçu ou rejeté par Rome dépend, justement, de cette perception-là. Et pendant tout un temps, ça marche. Pendant tout un temps, on ne fait pas la différence entre juifs et chrétiens dans le monde romain. Et puis voilà, donc, après la chute de Jérusalem, d'abord, pour montrer que eux n'ont rien à voir dans la révolte, les chrétiens disent « Mais nous ne sommes pas des juifs. » Puis après, justement, avec le rejet, justement, des coutumes juives, on est en train de tout faire pour distinguer le christianisme du judaïsme. Et au bout d'un temps, cette différence devient perceptible aux yeux des autorités romaines. Les autorités romaines disent « Ah, vous n'êtes pas juifs ?» Et les juifs aussi disent « Non, ils sont pas juifs. » Parce que là, le fossé s'est creusé. Ah ben alors ça, vous êtes une religion nouvelle, interdit. Le judaïsme continue à être religio liquita, religion licite, et le christianisme devient religio illiquita. Et voyez-vous, ça n'est pas du tout pour ici minimiser en rien le courage et l'abnégation de nos frères qui sont morts en martyrs pendant les grandes persécutions jusqu'à l'édit de Milan. Mais il faut bien reconnaître que beaucoup de ces chrétiens-là sont morts, ben justement parce que on a scié la branche à laquelle ils étaient assis, parce que les autorités chrétiennes ont fait une bêtise, ont fait des bêtises, ne serait-ce que sur un plan strictement stratégique et politique, si j'allais dire. Bon, politique dans le sens noble du terme, ça veut dire conduite des affaires dans la cité. Toutes les églises font de la politique dans ce domaine-là. Nous aussi, nous faisons de la politique. Nous avons une politique. Ça veut dire nous avons des rapports avec la cité, que le voulions ou non, même si nous n'entrons pas dans l'arène politique au sens politicard du terme, ben nous avons une politique. Quand nous sommes entrés dans la fédération protestante pour échapper à l'opprobre des sectes, c'était une politique. Bon. Eh bien, la politique, ça veut dire le comportement des autorités des églises du 2e siècle et 3e siècle par rapport au pouvoir romain était lamentable. Ils ont fait une faute psychologique énorme. Psychologique que Luc ne faisait pas, que Paul ne faisait pas, que les premiers ne faisaient pas. Et ça a entraîné évidemment la persécution. Bon. Alors le christianisme, Abou Hubo dire, nous sommes le christianisme, nous sommes le judaïsme véritable. Les autorités romaines ont accueilli ça avec scepticisme, parce qu'ils voyaient à côté d'eux un judaïsme ancien dans lequel eux, voyaient, eux, les païens qu'ils étaient, voyaient le véritable Israël. Voilà. Alors vous comprenez, ces histoires de persécution ont aussi approfondi le fossé entre juifs et chrétiens. Alors Justin aussi dit ceci. Bon, il voit le Christ, par exemple, dans le buisson ardent. C'est le Christ qui est apparu à Moïse. À Mamré, n'est-ce pas, l'ange qui a parlé avec Abraham était Jésus. Bon, vous trouvez ça jusque dans les milieux évangéliques aujourd'hui, cette idée que l'ange de l'Éternel était Jésus. Ça, c'est l'interprétation qu'on trouve déjà chez Justin. La plupart de ceux qui professent cette idée-là ne le savent pas. Et que, par conséquent, les juifs véritables sont les chrétiens. Voilà. Et ça, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Pour Justin, les rites de l'Ancien Testament ne sont que la préfiguration des rites chrétiens. Et alors, justement, il y a cette réinterprétation, c'est admirable, c'est délicieux de voir, n'est-ce pas, que ces gens qui condamnent, comme ce sera au Moyen-Âge, tous ceux qui, par exemple, respectent la Pâque ou bien mettent des vêtements propres le samedi, vous avez plus d'un malheureux juif ou non-juif, d'ailleurs, qui s'est retrouvé sur les bûchers de l'Inquisition pour ce crime abominable. Eh bien, finalement, disent le Shabbat était la préfiguration du dimanche. La Pâque juive était la préfiguration de la Pâque chrétienne. Donc, célébrons dimanche, célébrons Noël, célébrons les Pâques chrétiennes, célébrons, etc., etc., etc. Alors, on condamne d'un côté chez les uns le ritualisme, de s'attacher à des symboles dépassés, et dans le même temps, on rétablit ces symboles-là, mais en les déplaçant, en les christianisant. Chapeau bas pour la prouesse. Fallait y penser. Enfin, encore une fois, est-ce que Jésus, est-ce que Paul, est-ce que Pierre auraient été d'accord avec ça? On peut en douter. On peut en douter. Bon. Par exemple, on trouve toujours chez Justin aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont remplacés par les prières et les aumônes. Bon, alors il arrive ça par des gymnastiques d'exégèse allégorique, dont on trouve d'ailleurs, et c'est quand même savoureux de le noter, l'exact pendant dans le Talmud. Le Talmud fait exactement la même démarche. Parce que le Talmud se trouve confronté au même problème. Le temple est détruit, les sacrifices ne sont plus possibles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on remplace les sacrifices par les prières. Et les trois prières quotidiennes que tout juif pieux est amené à faire tous les jours sont l'exacte reproduction des trois sacrifices quotidiens qu'il y avait dans le temple, donc le matin, le midi et le soir. Bon. Et on arrive au même résultat par la même exégèse. Admirez quand même, admirez. Alors d'un côté, on veut se déjudaïser à fond, et d'un autre côté, eh bien, on se rejudaïse, mais d'un autre côté. Remarquons que cette démarche n'est pas dépourvue d'une certaine logique. Car dans la mesure où l'Église se considère comme le véritable Israël, il n'y a pas de raison qu'elle ne retourne pas au légalisme d'Israël. Vous savez que dans la théologie catholique jusqu'à nos jours, le minimum requis à un chrétien pour qu'il ne soit pas en état de péché mortel, c'est qu'il fasse ses Pâques au moins une fois par an. Ça veut dire, on ne lui demande pas une pratique. Bon, on lui demanderait bien sûr, l'idéal serait qu'il aille à la messe tous les dimanches, mais le minimum, c'est qu'au moins il aille à la messe le jour de Pâques. Si au moins il fait ça, il n'est pas en état de péché mortel. Bon, ben vous trouvez ça dans le judaïsme, c'est les trois pèlerinages annuels, les trois régalimes. Et vous avez bien des juifs aujourd'hui, des juifs qui ne sont pas pratiquants, mais qui vont jeûner à Kippour, par exemple, c'est le minimum. Ben voilà, c'est la même idée. La même idée. Et là, nous avons une relégalisation de l'Église catholique, à partir du IIe siècle, qui est l'exact pendant de ce que l'on trouve dans le judaïsme, et que dans le même temps, on condamne comme étant véritablement satanique, quand c'est du côté juif. Et l'on comprend qu'en Espagne, par exemple, à l'époque de l'Inquisition, à l'époque des Maranes, un certain nombre de non-juifs se sont dit bah, « tant qu'à célébrer des rites, pourquoi je ne célébrerai pas ceux d'Israël ?» Et pourquoi est-ce qu'on me condamnerait pour respecter des choses que Jésus a lui-même vécues, que Paul a vécues, que les apôtres ont vécues? Question qui, effectivement, n'est pas dépourvue d'une certaine logique, quelques réponses qu'on lui donne. Bon. Et alors aussi, quand on ne garde que la loi morale de ce que l'on appelle l'Ancien Testament, on ne se rend pas compte que cette loi morale, elle est spécifiquement juive. Alors, bien sûr, on oppose la foi à la loi, Abraham contre le ritualisme, et encore une fois, c'est extrêmement savoureux, parce que dans le même souffle, on rétablit le rite que l'on vient de condamner. Alors, Euseb, par exemple, fait un distinguo subtil et tout à fait intéressant entre hébreu et juif. Et ça aussi, on trouve parfois ça, encore une fois, vous savez que certains juifs chrétiens, avant d'employer le mot messianique, employer le mot hébreu chrétien. Bon, ça vient aussi de Zeb, on ne sait pas trop. Est-ce la raison pour laquelle, à partir de cette période-là, on a donné à une épître qui n'est pas titrée dans l'original le nom d'épître aux Hébreux, dans le seul but de ne pas lui donner le nom de épître aux Juifs, parce qu'épître aux Juifs, c'est impensable. C'est impensable. Mais à limite. Par exemple, Zeb nous dira que les premiers évêques de Jérusalem étaient tous des Hébreux fidèles. C'est très intéressant, un homme qui est aussi anti-légaliste que les Zeb, mais dans son histoire ecclésiastique, il nous dit que tout cela était des Hébreux fidèles. Qu'est-ce qu'il sous-entend par Hébreux fidèles? Ça veut dire qu'il gardait la Torah. Donc jusqu'à Bar Korba, hein, jusqu'à, en tout cas, la destruction du Temple en 70, et même au-delà, semble-t-il, n'est-ce pas? Tous les évêques de Jérusalem étaient des Hébreux fidèles. Et il ne dit pas des Juifs, il dit des Hébreux. Hein? Bon, alors, il y a ensuite cette idée que l'on trouve chez les pères aussi, qui sont très en prise avec les philosophes, que le christianisme est la réalisation d'une religion naturelle. Alors ça, c'est très intéressant, cette idée. Parce que, jusque maintenant, on considérait, chez Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament d'une manière générale, que le judaïsme était une préparation évangélica. C'est typique, par exemple, de toutes les épîtres, de tous les discours de Paul. Paul prouve par les Écritures que Jésus est le Messie. Bon, vous lisez le discours d'Étienne, vous lisez justement l'épître aux Hébreux, c'est tout à fait caractéristique. Justement, la législation d'Ancien Testament était une préfiguration des choses qui devaient être réalisées par le Seigneur Jésus. Bon. Évidemment, ce type d'apologétique-là peut avoir un impact en milieu juif, et il en a eu, plus qu'on veut bien le dire d'ailleurs, Mais dire à un païen, à un philosophe grec, à un romain, que Jésus a accompli les promesses faites au peuple d'Israël, il n'en a rien à voir, romain qu'il est. C'est d'ailleurs intéressant de noter que chaque fois que Paul parle à des non-juifs, c'est une apologétique qu'il n'emploie pas. Lisez le discours, par exemple, aux païens de Lystre, ou le discours à l'Aréopage à Athènes, c'est une démonstration qui tomberait à côté que Paul n'emploie pas. Alors justement, les pères de l'Église, eux, vont beaucoup plus loin dans ce domaine. Ce n'est pas le judaïsme qui a été une préparation évangélica, mais c'est le paganisme, et notamment la philosophie grecque. Les philosophes ont préparé la venue de Jésus. Pourquoi ? Parce que les philosophes se sont élevés du paganisme, qu'on ne peut quand même pas, dans une perspective chrétienne, accepter. Encore que cette démarche est une démarche qui est typique de la démarche catholique. Par exemple, à Assise, quand Jean-Paul II rassemble les gens de toutes les religions, c'est parce qu'il estime que même dans les religions les plus idolâtres, il y a une part d'une vérité éternelle. L'éthique catholique, depuis saint Thomas d'Aquin notamment, mais même avant, a été complètement laïcisée. Et c'est pourquoi Jean-Paul II pense que la morale chrétienne peut s'appliquer au monde entier, aux non-chrétiens également. On ne demande pas aux non-chrétiens d'adopter le dogme catholique, mais d'adopter la morale et l'éthique catholique parce que c'est une morale universelle, parce que c'est une morale naturelle à laquelle on arrive tout simplement par la raison humaine. Donc les philosophes grecs sont arrivés à cette notion d'une religion naturelle. Par exemple, c'est typique chez les stoïciens. Paul n'est pas toujours très éloigné de cette conception-là. Par exemple, il nous dit dans la deuxième chapitre de l'Épître aux Romains qu'il y a effectivement une espèce de morale naturelle qui naît dans le cœur du païen. Ils font naturellement ce que réclame la Torah, mais Paul ne va pas plus loin. Il s'arrête là tout de suite, n'est-ce pas ? Bon, il reprend, il est d'accord aussi que finalement le christianisme, enfin le judéo-christianisme, parce que pour lui, le christianisme n'existe pas. Il ne faut pas oublier que l'expression christianisme, c'est quand même une notion anachronique par rapport à l'époque du Nouveau Testament. Et si on commence à appeler les disciples des chrétiens, c'est par dérision. Ce n'est pas quelque chose que les chrétiens s'appliquent à eux-mêmes. Il ne faut pas l'oublier. Ça aussi, là, on déforme la perspective, parce qu'on considère que, à l'époque du Nouveau Testament, il y a d'une part le judaïsme, d'une part le christianisme. Paul cesse d'être juif pour devenir chrétien quand il se convertit sur le chemin de Damas. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. On voit bien, quand Paul parle à Agrippa, par exemple, qu'il considérait que son évangile était finalement l'accomplissement du judaïsme. Pour lui, il n'avait pas l'impression qu'il y avait une rupture. Et nous introduisons cette rupture parce que c'est naturel pour nous, cette rupture, nous la vivons. Par conséquent, nous imaginons qu'elle a toujours existé. Elle a existé des origines. Ce n'est pas vrai. Cette rupture, elle a commencé au IIe siècle, au milieu du IIe siècle, très exactement. Avant, elle n'existait pas. Du moins, pas dans les mêmes termes. Hein ? Alors donc, l'idée d'une religion naturelle. D'une religion naturelle qu'on trouve un petit peu, d'ailleurs... bon, Paul aussi a un peu cette démarche quand il dit « un Dieu inconnu ». Il y avait une aspiration dans le... Bon, c'est vrai, il y a jusqu'à un certain point. Mais on pousse très très loin le parallèle jusqu'à, finalement, voir dans les philosophes grecs des espèces de prophètes, ce que Paul, évidemment, n'a pas fait et n'aurait jamais fait. Bon, on trouve ça aussi, par exemple, chez Rousseau. Hein. La profession de foi du vicaire savoyard et finalement tout le courant libéral romantique du XVIIIe siècle et jusqu'à Bultmann, finalement, eh bien, c'est cette idée qu'on peut réduire finalement le christianisme à une religion naturelle, dépourvue de dogmes, dépourvue de miracles, dépourvue de surnaturel, quelque chose qui se réduit en quelque sorte à une éthique générale. Bon, c'est une tentation qu'il y a maintenant aussi, avec un, quand on lit par exemple ce que écrit Marchadour après la publication du bouquin de Finkelstein. Bon, c'est cette espèce de récupération dans un subjectivisme qui part aussi de la même notion. C'est la tentation permanente. Hein. Par exemple, on insiste sur le fait que Abraham s'est prosterné devant Malkitsédek. Alors, Abraham, c'est le juif, Malkitsédek, c'est le non-juif. Donc, Abraham, le juif, s'est soumis au non-juif, qui était déjà le représentant de cette religion naturelle. Ça veut dire la gentilité triomphe de la circoncision. Alors, on fait le transfert. L'Eucharistie a remplacé le céder. Le baptême a remplacé la circoncision. Vous trouvez ça encore, ces poncifs-là, vous les trouvez jusqu'au sein du christianisme, jusqu'au sein du protestantisme. Vous trouvez ça chez Karl Barth, vous trouvez ça jusqu'à ces dernières années dans la faculté d'Aix réformée l'Église évangélique. Vous retrouvez ces notions-là. Et nous sommes ici en plein dans la théologie de la substitution. Bon. Alors, naît aussi à cette période-là l'idée que la loi rituelle est née du mauvais penchant du peuple juif. Qu'elle lui a été donnée à la suite de l'affaire du veau d'or, parce que le peuple juif est un peuple sensuel, non spirituel, grossier, qui a besoin de voir ses appétits sans cesse réprimés. Bon, c'est un peuple lubrique et libidineux, ça tout le monde le sait, elle a toujours su, donc on lui impose la circoncision, pour lui rappeler qu'il faut qu'il soit modéré dans ce domaine. C'est un peuple glouton et vorace, par conséquent on lui impose des lois alimentaires pour lui le rappeler à la modération. Bon, voilà le genre d'apologétique que vous trouvez chez les pères de l'Église. Vous trouvez ça au Moyen-Âge, vous trouvez ça dans certains milieux encore aujourd'hui. Et alors l'idée que la Torah est caduque avant même d'avoir été appliquée. Alors pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Moïse d'en tailler d'autres ? Parce que justement le peuple a été pardonné. Et alors on fait cette différence que fait Calvin par exemple entre les 10 paroles qui restent valables pour les hommes de tous les lieux, de tous les temps, parce qu'elles sont justement le reflet de cette morale naturelle. Pas de chance. C'est justement dans ces 10 paroles qu'il est dit « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. » Ah, embêtant ça, affaire-là. Non, pas de problème. Quand Moïse disait le Shabbat, en fait, il voulait dire le dimanche. Bon, comprenne qui pourra. Mais enfin, voilà, hein, c'est comme ça. Donc ici, ça, c'est la loi morale, la loi universelle, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, bon, etc. Très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis le reste, hein. Le reste, dont pourtant Jésus a dit que pas un iota, pas un trait de lettre ne disparaîtrait. Alors maintenant, se pose un dernier problème. Si la Torah est totalement abolie, sauf ce qui est la loi naturelle, et c'est le critère finalement, qu'est-ce qui reste dans l'Ancien Testament ? La loi naturelle. Et ça nous conduit tout droit à Bultmann. Ça nous conduit tout droit à Rousseau, au vicaire savoyard. Ça nous conduit tout droit au subjectivisme. À ça, on n'a pas vu ça. Alors on tonne contre Bultmann, on s'arrache les cheveux de désespoir, mais on ne se rend pas compte qu'on avait déjà semé les germes de cette hérésie-là, justement, dès les origines du christianisme. C'était normal qu'on en arrive là quand on pousse à fond le raisonnement. C'est tout simple. Mais il y a un autre problème qui a été résolu. Si la Torah spécifique à Israël a disparu, pourquoi le peuple de la Torah n'a-t-il pas disparu? Pourquoi le peuple juif continue-t-il à exister? Ah! Réponse géniale de saint Augustin. Parce qu'il est là comme témoin de la vérité du christianisme. Le peuple d'Israël est éternel. Il subsistera toujours au milieu des nations. Mais dans un état humilié, dans un état exilé, dans un état dispersé, comme étant le symbole de la malédiction qui atteindra tous ceux qui ne veulent pas recevoir le salut qui est en Jésus. Voilà. Ça, c'est l'enseignement du mépris, comme l'a dit Jules Isaac. Cet enseignement du mépris est très intéressant. Cette doctrine d'Augustin est très intéressante. Parce qu'en même temps, elle a son côté négatif. Et ça, notre époque moderne l'a souligné je dirais, avec une satisfaction quasi masochiste. Bon, ça a été le grand mérite de Jules Isaac, nous l'avons vu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de mettre en exergue l'enseignement du mépris. Et de l'enseignement du mépris qui a été introduit par Saint-Augustin a entraîné la Shoah. Bon, la démonstration de Jules Isaac est imparable. Elle a été adoptée par, je crois, tous ceux qui connaissent un peu le problème. Mais, justement, maintenant, on arrive à un autre excès. C'est toujours comme ça, vous savez. C'est qu'on considère que, finalement, le christianisme est responsable de tous les malheurs, de la Shoah, de ci, de ça, etc., du colonialisme, des ouragans qui se produisent en Californie, du raz-de-marée qui a eu lieu au Chili, etc., enfin de tout, quoi. Bon. Et c'est le professeur Flusser, qui n'est pas pourtant quelqu'un qui est un ami inconditionnel du christianisme, qui est très critique par rapport au christianisme, qui a mis en garde les chrétiens. Et attention, attention. Ne poussez pas trop loin l'autoflagellation. Parce que cela peut avoir des effets extrêmement négatifs d'une part. Ça peut provoquer une espèce de névrose chrétienne. Et c'est le professeur Flusser qui a été le premier à parler de névrose chrétienne. Nombre de chrétiens aujourd'hui, depuis la découverte de la Shoah, sur laquelle on n'arrête pas de s'apitoyer, et les anti-chrétiens, les adversaires du christianisme, montrent ça en exergue, le devoir de mémoire et toutes ces choses-là, etc., etc., fait que finalement, beaucoup de chrétiens, dit le professeur Flusser, vivent leur christianisme comme une névrose. Une honte d'être chrétien, et la nécessité de se repentir constamment pour les fautes du passé. Et alors on fait des grandes marches de repentance à Yad Vashem, on fait des marches de repentance pour demander pardon aux musulmans d'avoir fait les croisades, etc., etc. Il y a l'autoflagellation permanente, c'est la névrose. Et c'est pas sain du tout, S-A-I-N. Et c'est pas sain non plus, S-A-I-N-T. Et le professeur Flusser dit attention, l'enseignement du mépris a eu certes son mauvais côté, et il faut le combattre. Il a eu aussi son bon côté. C'est que l'enseignement du mépris, saint Augustin dit ceci, les Juifs sont un peuple éternel. Et en quelque sorte, bien que méprisé, bien qu'humilié, le peuple d'Israël était considéré par les chrétiens comme le peuple de Dieu, les frères aînés, et par conséquent comme un peuple protégé. Et quand on voit l'histoire d'Israël telle que nous l'étudions, nous rendons compte que c'est vrai. Les rois se considéraient comme les protecteurs des Juifs. Parfois, les évêques eux-mêmes se considéraient comme les protecteurs des Juifs, les papes. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que la relation au peuple d'Israël a toujours été ambiguë dans le christianisme. À la fois, il était le frère qu'il fallait tuer pour pouvoir prendre son héritage et sa place. Et d'un autre côté, il était le frère dont on ne pouvait pas se passer, dont on avait constamment besoin, ne serait-ce que pour prouver la vérité du christianisme. Et Flusser dit ceci. La Shoah n'a pas eu lieu à cause du christianisme, mais parce que l'Europe a cessé d'être chrétienne. Ça, c'est très fort. La Shoah n'a pas eu lieu parce que l'Europe était chrétienne et qu'elle a été chrétienne, mais parce qu'elle avait cessé d'être chrétienne en 1940. Car si l'Europe avait été encore chrétienne à cette période-là, jamais les Juifs n'auraient été massacrés. Pour Augustin, c'était impensable. On pouvait humilier les Juifs, mais on ne pouvait pas les détruire. On n'avait pas le droit de les détruire. Et les papes, quand justement on a dépassé les limites, se sont toujours dressés. Ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Et la Shoah a été possible uniquement à partir du moment où l'Europe a eu la haine de soi-même, la haine de ses racines. Et le professeur Flusser dit une chose intéressante, qui est à méditer pour notre temps, pour notre aujourd'hui, et là nous touchons à une actualité plus que brûlante. Il a dit les Juifs ont infiniment plus à craindre d'une Europe déchristianisée que d'une Europe christianisée. Et un de ses derniers livres était un plaidoyer pour que les chrétiens retrouvent leurs racines, pour que l'Europe redevienne chrétienne. Il est mort il y a quelques années. Que dirait-il s'il entendait ce que justement l'archimandrite disait là à Athènes, que on ne veut plus justement même mettre dans le préambule que l'Europe a été chrétienne. Car pour le professeur Flusser, qui était un grand connaisseur du christianisme, malgré ses déviations, malgré son anti-judaïsme, voire même son antisémitisme, le christianisme est une religion juive. Voilà, elle reste une religion juive. Et aussi longtemps qu'elle restera une religion juive, et elle ne peut pas être autre chose qu'une religion juive, même quand elle ne le veut pas, même quand elle veut se séparer du christianisme, et l'histoire de Marcion est là pour le montrer, eh bien, elle ne pourra pas aller au-delà d'une certaine limite dans la destruction du peuple d'Israël. Et si aujourd'hui l'Europe se tourne contre le peuple d'Israël, et que notre peuple en particulier connaît cette vague d'antisémitisme, c'est aussi parce qu'elle a les stéréotypes issus du christianisme, mais c'est parce qu'elle a cessé d'être chrétienne. Alors voyez-vous, ça c'est des sujets de méditation très importants. Voilà, je m'arrête là pour ce soir, mais ça, je crois que là, on touche à cette actualité brûlante. Alors, c'est cette ambivalence, d'un côté, n'est-ce pas, ce désir de s'affranchir tout à fait du judaïsme et l'impossibilité. Finalement, c'est la lutte d'Ésaü et de Jacob, ça, les rabbins l'avaient dit. Jacob et Ésaü s'empoignent. Et c'est la lutte, hein, c'est la lutte. Finalement, il y a des traditions qui disent que l'ange qui a lutté avec Jacob au guet de Jabok était une personnification, c'était l'ange d'Ésaü. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. Mais finalement, il voit, n'est-ce pas, dans cette lutte, bien, c'est la lutte éternelle des deux frères ennemis. Ils sont ennemis, mais ils sont frères. Et ils ont beau faire, ils resteront frères. Jusqu'au moment où, au temps de la fin, ils se réconcilieront, comme Jacob se réconcilie avec Ésaü. Et Ésaü, dans la tradition juive, vous savez, c'est l'image du christianisme. Alors, c'est cette inimitié, et en même temps, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ni Jacob non plus, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Bien sûr. L'islam a compris ça, il l'utilise à fond. Ça, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Et maintenant, il y a une autre chose aussi, c'est que l'islam a repris cette idée chrétienne d'une religion naturelle. Et l'islam se considère comme la religion naturelle. Il y a dans le dogme islamique l'idée que si un enfant n'était pas instruit dans une autre religion, il se tournerait spontanément vers l'islam. Car c'était la religion d'Abraham, c'était la religion d'Adam, c'était la religion de voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Ils ont repris ça, justement, des pères de l'Église. Thank you.